Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes toujours donc dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, tous les jours en direct de 17h30 à 19h30. Et ce mercredi, donc, c'est le magazine L'Incorrect qui est en partenariat avec votre radio préférée. Et pour cette deuxième et dernière heure, nous recevons David Da Silva. David Da Silva, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en études cinématographiques, diplômé de l'Institut français de presse, historien du cinéma. Vous avez écrit de nombreux essais chez l'excellente maison d'édition Leitmotiv. On peut lire des essais sur que vous avez écrit sur Sylvester Stallone, sur le populisme américain, Trump, Hollywood, Mel Gibson ou encore Scarface. Et donc vous publiez aujourd'hui aux éditions Leitmotiv L'âge des inutiles, Trump, l'intelligence artificielle, le capitalisme post-humain et l'avenir du cinéma. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'écrire la préface. Donc votre thèse est assez vertigineuse en effet, puisqu'on entre dans un monde qui ne se contente plus d'exploiter les hommes, mais qui pourrait tout simplement cesser d'avoir besoin d'eux. Et oui, la littérature science-fiction nous avait alerté, pourtant on fonce quand même, c'est toujours ça ce qui est étonnant chez l'être humain. Il le sait, mais il y va tout droit. Mais avant de demander à une machine si nous méritons encore de vivre, nous allons respecter une tradition beaucoup plus humaine, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
David Da Silva, le film que vous emporteriez sur une île déserte si l'IA devait vous enlever tous les autres, ce serait lequel?
2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick.
L'emploi humain que l'IA devrait remplacer en premier, influenceur, consultant ou ministre?
Ministre, vu l'état des finances publiques.
Le métier qu'aucune machine ne devrait jamais exercer.
Les métiers du soin.
C'est mal barré. Vous préférez être inutile parmi les humains ou indispensable aux robots?
Inutile parmi les humains.
Le film a montré d'urgence à Donald Trump.
Une bataille après l'autre.
Je pense qu'il l'a vu. Le réalisateur le plus surestimé par les intelligences humaines.
Surestimé, je vais tricher, je vais dire sous-estimé, parce que surestimé, ça serait dire du mal de.
Bah oui, c'était le but de la question. C'était justement
ouais,
dire du mal.
J'aime pas trop, mais je dirais sous-estimé, c'est peut-être John McTiernan.
Ah, ça, je suis d'accord. Le film que l'IA aurait pu améliorer, ou aurait amélioré tout simplement d'ailleurs.
J'ai pas un titre précis, mais je dirais tous les films peut-être de science-fiction des années 1990 avec des effets numériques qui ont très mal vieilli.
Quel grand classique d'Hollywood un algorithme n'aurait jamais pu, ou ne devrait jamais réécrire d'ailleurs, ou ne pourrait jamais réécrire?
Le Parrain.
Et le remake par une IA que vous redoutez le plus?
Scarface.
Et enfin, la dernière image de cinéma que vous voudriez voir avant que les machines prennent le pouvoir? Sera laquelle?
La scène finale de La Ligne Rouge de Terrence Malick.
Merci beaucoup, David Da Silva. En effet, on imagine mal les. D'ailleurs, un remake IA des films de notre camarade Malick. Alors, commençons par votre livre. Il y a beaucoup de sujets. Donc, on ne pourra pas malheureusement tout aborder. Mes chers auditeurs, vous pouvez le commander dès maintenant sur le site, par exemple, de Leitmotiv. Leitmotiv, voilà, ça s'appelle L'âge des inutiles, et puis vous pouvez également commander les précédents essais de David Da Silva sur Stallone, si vous aimez Stallone, sur la boxe, sur le populisme, sur Gibson, sur Scarface, vous l'avez entendu, il aime bien Scarface, sur Trump Hollywood, parce que, en effet, on s'attendait plutôt à un tome 3 de votre trilogie sur Trump, après Trump Hollywood, l'arrivée au pouvoir, Trump Hollywood, le cinéma trumpien et anti-Trump, et là, vous arrivez, alors on se dit ça va être ça, puis vous allez un peu sur autre chose. Qu'est-ce qui a fait basculer justement votre réflexion plus large sur l'IA et les inutiles?
En fait, au départ, c'était le tome 3, justement, et puis en discutant avec mon éditeur, il a trouvé que dans la deuxième partie, étant donné que c'était très centré sur l'intelligence artificielle, c'était peut-être plus judicieux de l'éloigner des volumes précédents. Et puis, c'est devenu un livre autonome parce que c'est vrai que pour avoir suivi finalement la carrière politique de Trump, parce que le hasard a voulu que j'ai fait ma thèse de doctorat sur le populisme américain, j'ai soutenu en 2015, en juin 2015, et je l'avais terminé en novembre 2014. Et dans la conclusion, j'annonçais d'une certaine manière que quelqu'un comme Trump pouvait être élu, d'après toutes mes recherches. Donc évidemment, quand Trump a été élu, je me suis senti un peu obligé d'écrire sur ses mandats politiques et le cinéma de l'ère Trump. Et puis, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un nouveau Trump. Ce n'est pas le Trump de 2017-2021. C'est un nouveau Trump qui s'est détaché de sa base populaire pour s'allier avec les géants de la tech, de la Silicon Valley. Donc voilà, c'est devenu un nouvel essai sur le nouveau Trump et la nouvelle Amérique.
Alors, votre titre reprend évidemment le concept de Günther Anders, la honte prométhéenne. Peut-être expliquer à nos auditeurs cette notion et pourquoi elle est peut-être encore plus actuelle en 2026 qu'elle ne l'était en 1956.
C'est que l'homme va se sentir honteux d'être si médiocre face à sa création. Donc évidemment, aujourd'hui, avec les progrès de l'intelligence artificielle, qui égale ou surpasse l'homme sur plusieurs points intellectuels, c'est vrai qu'on est en plein dedans. Donc c'était prophétique de sa part.
Et vous savez, on compare souvent l'IA, la révolution IA, avec la révolution industrielle, par exemple. Mais vous écrivez que c'est plus la force de nos outils qui nous dépasse, mais c'est la pensée. Et est-ce que justement c'est une différence de degré ou c'est une différence de nature avec la révolution industrielle du siècle dernier ? Est-ce qu'on est sur un truc radicalement différent ?
Le siècle dernier, malgré tout, l'homme avait sa place parce qu'il devait travailler. Donc malgré tout, les grands patrons avaient besoin des bras des travailleurs. Donc il y avait de l'exploitation, mais il y avait quand même une place centrale de l'homme. Alors que là, on se rend compte que c'est autre chose. On a l'impression que il y a une volonté de substituer l'homme par autre chose. Donc pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle, et puis on sait que la deuxième étape, ça sera les robots humanoïdes connectés à l'intelligence artificielle. Donc là, c'est totalement la substitution de l'homme d'un point de vue économique.
Alors, votre livre, L'âge des inutiles, les inutiles, bon, on a compris, sont nous, les êtres humains, mais est-ce que c'est une catégorie qui est économique, c'est une catégorie qui est existentielle, ou c'est les deux ?
Je dirais que c'est plutôt économique, parce qu'on a beaucoup centré l'homme sur sa dimension économique, productive, l'efficacité. Donc effectivement, de ce point de vue, si la révolution technologique se poursuit, l'homme sera dépassé. Ça paraît assez évident. J'ai vu que Bill Gates récemment a d'ailleurs demandé à ce que tous les pays se concertent pour trouver des métiers qui ne seront pas remplacés, parce que selon lui, l'intelligence artificielle et la robotique pourront remplacer tous les emplois. Je pense que c'est plus de ce point de vue-là, étant donné qu'on a tout misé sur l'efficacité, la productivité de l'homme, effectivement, avec les machines très perfectionnées, il pourra être remplacé.
Allez-y.
Non, c'était juste, est-ce qu'il faut réduire l'homme à sa productivité ? C'est ça la question.
Et vous nous donnez quelle échéance ?
L'échéance, ça dépend, mais certains sont très, très optimistes. Musk, etc., ils donnent même 5 ans, 5, 10 ans. C'est très, très, très proche.
Prochain quinquennat, on peut être remplacé. Rémi Carlu a une question.
Oui, mais je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que finalement, à vous écouter, est-ce que l'IA ou la machine ne peuvent pas aussi être, d'une certaine manière, évidemment c'est un danger, mais est-ce que ça ne peut pas être aussi une opportunité pour reprendre conscience que l'homme n'a pas à être réduit à cette force de travail qu'en a fait le paradigme capitaliste, disons, depuis 200 ans, et donc d'une certaine manière aussi d'être capable de nous faire par rebond, disons, ressaisir ce qu'est véritablement l'être humain.
Tout à fait, moi je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je cite dans la deuxième partie un penseur français qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, Pierre Teilhard de Chardin, qui avait mis justement la conscience humaine, l'amour, l'empathie au centre de l'existence humaine. Et puis je pense que c'est ça, oui, effectivement. Il ne faut pas réduire l'homme à sa dimension productive, parce que sinon, effectivement, on va passer à une autre étape d'un point de vue de la productivité. Mais il faut recentrer sur ce qu'est l'essence de l'homme, la conscience de l'homme, ce qui fait de lui un être unique. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur.
Marco Brigon.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas non plus un peu une sorte de poudre aux yeux de la part des GAFAM qui veulent un peu nous faire, enfin, qui ont son narratif, vous savez, qui annonce une IA générale, qui pourrait vraiment avoir une conscience, ce qui d'après la spécialité des IA est plutôt impossible pour l'instant, et parce que finalement on se rend compte que l'IA découle vivement d'une tradition philosophique qui est celle des Lumières, qui est celle de la Renaissance et qui est celle de l'avènement du calcul probabiliste, en gros du rapport de la quantité contre la qualité, en fait, tout simplement. Et donc l'IA n'est pas nouvelle déjà scientifiquement, mais elle n'est pas nouvelle métaphysiquement, puisqu'elle prend sa source dans les Lumières, en fait.
Oui, bah après, il y a des questions marketing pour attirer des capitaux, etc. Ça, c'est évident. En fait, on ne sait pas, parce que il y a beaucoup de projections dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il en sera? On ne peut pas savoir. Toujours est-il que depuis l'apparition de ChatGPT, alors de mémoire, c'était novembre 2022, on a vu quand même des progrès assez fulgurant en peu de temps. Donc après, la question, c'est quel est le palier, où ça s'arrêtera, est-ce que la révolution robotique est réaliste ou pas. D'après les spécialistes en Chine, ils sont très avancés. Donc voilà, moi je ne sais pas.
Mais vous savez, aujourd'hui, on nous fait croire que l'IA raisonne dialectiquement. En l'occurrence, c'est faux. Une IA ne raisonne pas, et encore moins dialectiquement, puisqu'en fait, l'IA choisit simplement la réponse la plus probable qui va advenir, en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, une IA hallucine constamment, et pas seulement des moments ponctuels. Une IA, par définition, elle hallucine, et c'est juste que ses hallucinations vont être les plus probables possibles, en tout cas celles qu'elle va révéler à l'utilisateur, en fait.
Oui, bah après, qu'il y ait des hallucinations, etc., qu'elle ait une conscience probable dans le futur. Ça, moi, je peux pas répondre à ça. Après, est-ce que ça sera très efficace dans le milieu professionnel? Voilà, c'est la question. Elle doit être posée. Et puis, voilà, on voit que la Chine et les États-Unis misent énormément dessus. Je pense que nos sociétés fonctionnent déjà beaucoup grâce à l'IA, Internet, l'IA. Donc voilà, on voit que c'est déjà quand même au centre de nos systèmes économiques. Après, c'est à quel degré ça va progresser. On a l'impression que le président chinois et le président Trump sont convaincus que ça sera un domaine très très important. Voilà. Après, moi, je n'ai pas la réponse. Hein, je suis pas spécialiste du domaine. Voilà, il y a des prophètes de l'IA comme Laurent Alexandre qui sont convaincus que l'IA sera très très importante dans notre société. Voilà, je peux pas, je ne sais pas. Je suis ni technophile ni technophobe. Je suis plutôt technosophe. J'essaie de réfléchir à la place de la technologie dans nos sociétés et qu'est-ce qui pourrait advenir dans les années à venir.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec David Da Silva, qui est historien du cinéma et qui publie aux éditions Leitmotiv L'âge des inutiles. Donc vous l'aurez compris, on parle de Trump, on parle d'IA, on parle de capitalisme post-humain et de l'avenir du cinéma. Ça en viendra en seconde partie. Alors vous l'avez expliqué au début, au départ vous vouliez écrire le tome 3 de votre trilogie. En tout cas, vous aviez écrit les deux premiers tomes sur Trump et Hollywood. Je rappelle, Trump et Hollywood, l'arrivée au pouvoir, et ensuite Trump et Hollywood, le cinéma trumpien et anti-trumpien. Et ce qui a fait changer l'orientation de ce livre, qui n'est pas le tome 3, mais qui est un autre livre, c'est le changement de Trump. Et donc vous dites que la réélection de Trump s'explique par son alliance avec la tech. Alors comment s'est passé et qu'est-ce qui a changé chez Trump?
Bah, ça a changé parce que effectivement la Silicon Valley, elle était depuis de nombreuses années plutôt du côté démocrate, donc pour l'ouverture, et elle s'est alliée avec Trump pour justement un côté protectionniste. Alors, peut-être que l'idéologie protectionniste s'allie très bien avec l'idéologie de l'intelligence artificielle et de la robotique, parce que effectivement, on n'a plus besoin de faire venir des travailleurs pour travailler, parce que l'IA ou la robotique peut le faire. Alors, il me semble que c'était ça. C'est, je l'ai lu dans le livre de Klaus Schwab, donc qui théorisait ça, hein, qu'effectivement la mondialisation pouvait s'arrêter grâce au progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc peut-être que effectivement le discours protectionniste de Trump d'un seul coup s'allie très bien avec le projet économique de la Silicon Valley.
Alors vous parlez même d'un, pour analyser d'un retour de, alors je vais le faire en français, de l'âge doré. Je rappelle à nos auditeurs, c'est cette période qui va, en gros, de la guerre de sécession, la fin de la guerre de sécession au début du siècle, 1900, donc l'ère progressiste qui arrive. En quoi cette période peut nous éclairer sur ce qui se passe aujourd'hui ou sur ce qui va se passer?
Bah, c'était une période de monopole. Donc voilà, c'est effectivement, c'était une période de prospérité, mais c'était des monopoles. Des grands monopoles avec des grands chefs d'entreprise. Donc ça fait penser un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui avec les grands chefs d'entreprise de la Silicon Valley, comme Musk, Peter Thiel, etc. Alors ensuite, à cette période-là, on a mis fin au monopole aux États-Unis. La grande question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on va mettre fin à des monopoles des géants de la Silicon Valley, ce n'est pas sûr, notamment Peter Thiel qui dit que justement il ne faut pas, il faut laisser les grandes entreprises dominer et que celui qui s'opposera à la domination finalement des très grandes entreprises comme Palantir, bon, lui il qualifie ça dans son discours.
Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer aux auditeurs ce qu'est Palantir?
Oui. Palantir, bah, c'est une grande société de surveillance notamment qui est allié au gouvernement américain, mais pas que, et qui sert bah justement, on peut dire, par exemple, pour ICE, ça servait à dénicher des clandestins, etc. Donc, c'est un grand système de surveillance. Et donc, pour Peter Thiel, ça servira pour justement la sécurité des États, etc. Et il emploie un terme un peu étrange pour dire que ceux qui s'opposeront à la domination de Palantir, bon, il les qualifie, enfin, il dit que ce sera l'antéchrist.
Système qui en plus sous-traite pour la France, hein, et pour d'autres pays européens, oui, ce qui pose des questions de souveraineté quand même assez incroyables.
Tout à fait.
Exactement. Alors, dans ce magma, où on croise beaucoup de gens, vous avez cité Musk, vous avez cité Thiel, bon, il y en a beaucoup, il y a... qu'on appelle aussi les techno-souverainistes. Vous les citez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous redéfinir ce qu'on appelle les techno-souverainistes, parce que c'est un terme un peu abstrait.
Bah en fait, ça.
Et
vient
surtout leur idéologie,
la...
quoi. Quelle est l'idéologie qui se greffe?
Je vais parler de la néo-réaction. Hein. La néo-réaction, c'est un courant qui est dominant actuellement aux États-Unis dans les hautes sphères, justement proche de Peter Thiel, proche de Jed Vance, le vice-président américain. Bah en fait, c'est un courant qui remet en question la démocratie en disant que finalement, la démocratie est un échec, qu'il faut revoir tout ça, qu'il faut tout changer. Et pour faire simple, il se base sur trois piliers. Parce qu'après, il y a des différences. Hein. Ce n'est pas un mouvement... uniforme.
C'est ce qu'on appelle aussi les lumières sombres, parce qu'il y a plusieurs mots. Voilà, il y a plusieurs mots, mais comme ça, nos auditeurs savent à peu près, arrivent à situer qui est quoi.
Voilà, exactement. Donc les lumières sombres, et puis il y a un grand penseur qui est Curtis Yarvin et Nick Land, et ils sont pas tout à fait d'accord. Voilà, c'est pas homogène. Mais on va dire qu'il y a trois grands piliers dans cette idéologie, qui est la technologie, se baser sur la technologie, se baser sur la tradition et se baser sur, on va dire, l'ethnique, pour faire simple. Et puis, selon les idéologies, on va s'appuyer plus sur un pilier que sur un autre. On va dire que la technologie est assez centrale Et puis, ça peut être assez mouvant parce que Javier Milei, par exemple, en réalité, se situe dans cette mouvance, mais c'est adapté à son électorat sud-américain, argentin.
Et alors justement, oui, vous dites que vous citez l'Argentine de Milei en disant que c'est un laboratoire. Mais qu'est-ce qu'il expérimente concrètement et comment on peut le j'ai pas vu le lien entre Milei et les Lumières sombres. C'est comment expliquez-nous un peu ce qui se passe.
Bah, il est quand même soutenu par Peter Thiel, qui est quand même quelqu'un qui est très très proche des Lumières sombres. Et puis c'est quelqu'un qui brandit une tronçonneuse parce qu'il veut justement supprimer cet état qui domine, qui est trop présent. Donc ça, c'est aussi une idéologie très proche des Lumières sombres, qui est que l'État est omniprésent, il faut couper dans les dépenses. C'est d'ailleurs ce qu'avait voulu faire Musk avec le Dodge, avec Trump. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a aussi le côté tradition. On voit qu'il critique énormément tout ce qui est lié à l'avortement, etc. Donc, il mise beaucoup sur deux piliers. C'est à la fois la technologie, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment que l'Argentine soit à la pointe au niveau de l'IA et au niveau de la gestion d'un État par l'IA. Et puis aussi la tradition. Donc, c'est quelqu'un qui est ouvertement soutenu à la fois par Trump, mais aussi par Peter Thiel. Et on sait que Peter Thiel est fortement lié aux Lumières sombres.
Mais alors comment c'est que j'ai du mal à comprendre, c'est cette idée en effet chez les techno-souverainistes et chez les ultra-libéraux, chez les libertariens et qui voilà, bon il y a des nuances, mais ce qui les réunit en effet c'est l'État, il faut le dégager, mais on va le remplacer par une IA. C'est quoi la différence entre l'IA et l'État? C'est juste en fait ce qu'ils veulent pas, c'est des hommes qui gouvernent, mais si une IA ça va?
Bah en fait selon eux l'IA ça sera l'efficacité. Vous voyez, ça a déjà été testé, par exemple, en Albanie. Hein. Il y a une ministre qui est IA parce que on estime qu'elle ne sera pas corruptible. Voilà. Et elle prendra les meilleures décisions possibles. Donc, en fait, il y a ce côté efficacité. C'est vrai que quand on base toute une société sur la notion d'efficacité, de productivité, etc., eh ben, on peut facilement vendre le projet IA pour énormément de secteurs.
Alors pourtant, je crois qu'au Danemark, il y a un restaurant qui a été géré par une IA et qui a fermé au bout de 2 mois. Car l'IA, en fait, confondait les commandes, commandait n'importe quoi. Enfin, voilà, donc il y a des contre-exemples aussi.
Voilà, au début, oui.
Oui, bien sûr. Évidemment, hein, évidemment. Mais on va dire que ça va être plutôt les exemples positifs qui vont être mis en avant. Et puis, voilà, on va essayer de vendre ça un petit peu partout. Mais effectivement, entre la théorie et la pratique, on se rend compte qu'il y a énormément de différences. Mais voilà, au niveau de l'État, en fait, il y a cet aspect-là, ça va être beaucoup plus efficace, il n'y aura pas de corruption, il prendra les meilleures décisions possibles, il n'y aura pas d'autres biais humains qui peuvent faire que la décision ne sera pas la plus juste. Donc voilà, c'est un petit peu leur idéologie.
Et comment parce qu'il y a en effet cette idée de l'homme se trompe. Donc si on confie ça à une IA ou un robot, la probabilité que l'IA se trompe moins que l'homme est très élevée. L'exemple qu'on peut voir aujourd'hui, c'est dans le football. On a l'arbitre est un juge arbitre. On ne supportait pas qu'il fasse des erreurs. On fait appel à une vidéo assistance qui va peu à peu, au fur et à mesure que la technologie va augmenter, remplacer l'arbitre, parce qu'on ne supporte pas qu'il se trompe. Mais il y a aussi dans un autre aspect, qui est celle de la guerre, par exemple, et on le voit notamment avec la guerre entre Israël et la Palestine, l'IA qui prend de plus en plus de poids, et quelle est l'importance de la déresponsabilisation de l'homme dans l'avènement de l'IA? Parce que le principe de l'erreur, j'entends, mais il n'y a pas aussi cette idée de si c'est une IA, l'homme n'est plus responsable de rien.
Oui, bah après, c'est la question jusqu'à quand il y aura une décision humaine. Ça, c'est une grande question. C'est jusqu'à quand il faudra toujours un humain pour valider une décision de l'IA. Alors là, on parle de la guerre, mais même au niveau de la médecine. On sait que l'IA va être de plus en plus utilisée dans ce qui est dans l'aspect médical. Donc, à partir de quand le médecin sera garant d'une décision de l'IA? Donc, tout ça, c'est encore des décisions. Enfin, c'est assez flou. Hein, on ne sait pas encore. C'est vraiment des questions éthiques qui sont très très importantes, et j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment légiféré encore dessus. Et voilà, donc effectivement, même au niveau de la guerre, ça pose de gros problèmes, parce que qui porte la responsabilité d'une erreur de l'IA et qui va causer de nombreux morts?
Ou même pas d'une erreur, mais le fait que l'IA dise si on fait cette décision-là, bah il y aura 30% de je sais pas de dommages collatéraux en moins, il y aura quand même des dommages collatéraux. Donc il y a aussi cette idée. Rémi Carlu.
Oui, donc on comprend que pour vous ce nouveau paradigme nord-américain de la technique et de l'IA au service de la productivité va rendre tous les hommes, enfin une partie de l'humanité, partie substantielle sans doute inutile, et qu'elles sont, l'homme sera d'une certaine manière remplacé par les machines. Et donc la question de l'utilité de l'homme dans ce paradigme productiviste va être posée, mais est-ce que d'une certaine manière, le progressisme qui a cours sur le vieux continent n'aboutit pas aux mêmes conclusions? Je pense par exemple à la loi euthanasie qui a été votée il n'y a pas longtemps. Il me semble que les personnes âgées que l'on pousse vers l'euthanasie sont des personnes qui justement sont jugées inutiles aussi par la société contemporaine, et que donc c'est pour la raison même de leur inutilité fait qu'apparemment il n'est plus dignité, que donc on leur propose la mise à mort. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe là, c'est que l'idéologie qui a cours sur le vieux continent aboutit par d'autres trajets, disons, à la même conclusion, c'est-à-dire le tri de l'humanité entre les gens qui sont utiles, dont on dit qu'ils ont une dignité, et les autres.
Bah oui, tout à fait. On peut faire le lien, effectivement. Après, le vieux continent, il sera obligé de se mettre aussi massivement à l'IA s'il veut suivre un peu les deux grands pays, la Chine et les États-Unis, qui vont tout miser là-dessus. Donc, effectivement, c'est ce que je disais en début d'entretien, c'est que quand on place l'homme et on le voit que comme quelqu'un qui doit produire et qui doit être efficace, ben, y a beaucoup de vie, effectivement, où on se dit, il n'y a pas d'utilité. Donc, voilà, la loi euthanasie, etc. Ça pose de grandes questions, hein, parce que, effectivement, est-ce que l'homme doit être réduit à ça, et donc être inutile, et donc on peut s'en débarrasser? Ça pose de grandes questions philosophiques, et je pense que dans le livre, j'y réponds dans la deuxième partie.
Deuxième partie qu'on va aborder. Vous êtes toujours, chers auditeurs, dans Restons Courtois, l'émission de débat de radio Courtoisie. Nous sommes donc avec David Da Silva, qui est historien du cinéma, enseignant, et qui publie chez Leitmotiv L'âge des inutiles, Trump, l'intelligence artificielle, le capitalisme post-humain et l'avenir du cinéma. Vous pouvez participer, poser vos questions à nos invités par courriel, je le rappelle, courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 0085. Le temps d'un petit message et on se retrouve tout de suite après.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Reste en Courtois, Arthur de Vatrigan.
Et oui, vous êtes toujours dans Restons Courtois pour cette dernière demi-heure. Nous sommes avec David Da Silva, historien du cinéma, qui publie L'âge des inutiles, Trump, l'intelligence artificielle, le capitalisme post-humain et l'avenir du cinéma aux excellentes éditions Leitmotiv. Mais vous savez également qu'à 19h, c'est l'heure de la chronique de Marc Obregon. On va parler cinéma et puis futur également, parce que vous allez nous parler d'un film tout nouveau qui vient de sortir, Terminator 2.
Et oui, film qui ressort 35 ans après, classique de James Cameron, classique du cinéma d'action. Alors même pour ceux qui l'ont connu, il faut faire un petit effort d'imagination pour se replonger dans l'année 1991. Souvenez-vous, à l'époque, les Guns N' Roses tutoyaient les sommets des charts en nous assénant leur balade électrique sur fond de clips bleuâtres. La guerre du Golfe n'avait pas lieu, comme disait Jean Baudrillard, mais devenait le premier conflit augmenté de l'histoire. Et James Cameron allait sortir le film qui allait changer à tout jamais sa carrière, et peut-être même Hollywood, Terminator 2. 35 ans. Alors voilà qui ne rajeunit pas ceux qui l'ont vu en salle et dont je fais partie. Je m'en souviens comme si c'était hier, hein, à l'époque, pas d'internet. Et pour se renseigner sur un film qui sortait, il fallait se fier aux seules infos qui filtraient dans la presse. Et à voir les premières images dantesques parues dans Télé 7 jours, à lire les premières anecdotes de tournage, j'aime autant vous dire que Terminator 2 était attendu comme le messie par les collégiens que j'étais, biberonné au cinéma musqué des années 80, et à ce duel qui semblait sans fin entre les deux icônes de l'action hollywoodienne, Stallone et Schwarzenegger. Alors nul doute que que Schwarzy serait le grand gagnant avec ce film. Deuxième opus qu'on nous vendait comme le nouvel étalon hors du cinéma d'action, le film le plus cher jamais réalisé et le premier à incorporer des effets spéciaux numériques qui d'ailleurs, et c'est tout joli de Cameron, n'ont pas trop pris une ride. Alors, si le film ressort aujourd'hui dans une version 4K pour fêter ses 35 ans d'existence, il nous rappelle aussi, par son fond et par sa forme, une certaine excellence du cinéma hollywoodien d'alors, qui semble aujourd'hui disparue. Car Terminator 2, T2 pour les intimes, est aussi fort dans ce qu'il prophétise que dans ce qu'il ne prévoit pas.
Alors, et pour ceux qui sont au fond de la classe, là, rappelez-nous un peu de quoi ça parle.
Alors oui, pour rappel, James Cameron, en bon gamin traumatisé par la guerre froide, imagine un futur proche dans lequel une intelligence artificielle, une IA donc, Skynet, prend le contrôle des silos nucléaires et déclenche une guerre totale, bien décidé à exterminer la planète entière à coups de robots tueurs. Alors une résistance humaine s'organise et met à mal les projets de Skynet. Alors pour contrer ce mauvais pas, pour tirer de ce mauvais pas, l'IA malfaisante envoie un robot dans le passé afin d'assassiner celui qui deviendra le chef de résistance, John Connor. Un argument qui serait, d'après Cameron lui-même, tiré d'un rêve. Et effectivement, il y a quelque chose de la logique terrifiante du songe dans cette histoire surréaliste de robots tueurs venus du futur pour supprimer ce qui n'est pas encore advenu. Quelque chose de quasi médiumnique dans ce rêve éveillé qui voit les 90s comme le dernier rempart avant la lente invasion du silicium, avant l'invasion des technomanciens des GAFAM. Alors pourtant, faut-il rappeler que ces craintes liées aux IA, elles ne sont pas vraiment visionnaire, puisque l'IA est un vieux trope de la science-fiction depuis au moins les années 50. On peut même dire que la façon dont James Cameron met en scène la menace de l'IA est assez surannée, puisqu'il la voit avant tout, en bon cinéaste d'action, comme une menace d'ordre militaire. On était bien loin de se douter en effet à l'époque que l'IA viendrait nous menacer avec notre propre consentement, qu'elle s'introduirait dans notre intimité avec nos propres cris de joie. Car l'IA, et comme avant elle Internet, même si elle relève au départ effectivement d'un projet militaire, s'est introduite au cœur de chaque foyer et se fait passer pour alors soit un psychiatre ou un meilleur ami, ou au mieux une version légèrement améliorée de Google, sans que personne ne s'alarme vraiment de la façon dont elle menace notre rapport au collectif et à la réalité.
Alors qu'entendez-vous par là exactement ?
C'est toute la menace qui pèse sur Hollywood et sur l'industrie du divertissement en général. Grâce aux IA génératives, nous serons bientôt en mesure de prompter nos propres films, nos propres séries, nos propres dessins animés, selon nos petits désirs et nos petites pulsions du moment. Menaçant par là même ce qui est le seul but de l'art, et du cinéma en particulier, l'universalité. Terminator 2, à ce titre, peut se voir et se revoir comme un vestige d'un temps passé où un seul film d'action pouvait fédérer toutes les attentes et les craintes des spectateurs en imaginant une menace planétaire, sous la forme d'une armée de robots tueurs. Une menace qui paraît presque parodique face à celle bien réelle aujourd'hui de notre lent avachissement cognitif, de notre enfermement progressif dans une bulle numérique désormais tranquillement couvée par des IA aussi despotiques que maternantes.
Merci beaucoup Marc Aubregon. On va bien sûr parler de cinéma aussi avec David Da Silva, puisque je rappelle que David Da Silva, vous êtes historien du cinéma, et que le cinéma est une part importante également de ce livre. Mais nous parlions des questions éthiques et de la conscience. Alors vous convoquez Saint Thomas d'Aquin dans votre livre, justement pour lutter ou aller contre cette idée d'une IA consciente. Alors qu'est-ce que la théologie de Thomiste, pardon, peut nous aider, ou comment elle peut nous éclairer aujourd'hui sur l'IA ?
Après, l'IA, c'est vrai que l'IA, ça reste dans un ordinateur, donc c'est est-ce qu'elle pourrait être consciente comme un humain qui a un véritable rapport charnel au monde, etc. Pour l'instant, c'est vrai que c'est une grosse limite pour l'IA, cette absence d'interaction avec le monde réel, le monde matériel. Alors après, il y aura une deuxième étape. On sait que la robotique humanoïde va peut-être changer ça, va changer ce rapport de l'IA au monde matériel, en intégrant le monde et en singeant l'homme, parce qu'il aura un physique qui ressemble à l'homme. Donc, est-ce qu'à partir de là, elle aura un niveau de conscience qui va s'élever ? C'est toute la question. Alors après, il y a des débats. Il y en a qui pensent que l'IA est déjà proche d'avoir une forme de conscience, donc de se représenter le monde et d'avoir conscience d'elle-même par rapport au monde, et de craindre même pour son existence. Donc il y a des questions là-dessus. Donc voilà, si je pense que c'est vraiment la révolution robotique, si elle advient véritablement telle que c'est présenté, qui pourra peut-être vraiment faire franchir une étape à l'intelligence artificielle, voilà, au niveau de la conscience.
Vous parlez de nouvelles religions mondiales qui en gestation autour de l'IA. Justement, cette nouvelle religion mondiale, quelles vont être les promesses de salut?
Ben, en fait, ils promettent aussi l'éternité d'une certaine manière. Hein. C'est que les religions, ils promettaient la résurrection, la vie éternelle après la mort, etc. Et ben là, on a un peu le même discours. C'est que j'ai lu récemment le dernier livre de Laurent Alexandre, Vivre 1000 ans. Bon, ben c'est ça. Hein. C'est on promet la vie éternelle. Donc effectivement, c'est un discours religieux. Il y a des prophètes. Musk, Peter Thiel, Sam Altman, et puis il y a cette promesse de vie éternelle, et tout ça, ça fait un peu penser à la promesse des religions.
Mais est-ce que c'est plutôt, est-ce que c'est pas plutôt la vie éternelle des IA après l'humain? On imagine bien, je sais plus dans quel film, ou je crois peut-être une bande dessinée, je sais plus, cette image de robots qui continuent à exercer leur tâche alors qu'il n'y a plus un humain sur Terre.
Wall-E,
non? Et à Wall-E, mais il y avait un autre, plus ancien. Il continue à tondre la pelouse, à repasser, à passer l'aspirateur. Est-ce que finalement, les robots vont nous survivre, mais c'est finalement l'éternité, c'est eux qui vont l'avoir et pas nous.
Bah, en fait, pour être précis, le projet, par exemple, de Musk, c'est d'allier l'IA et la conscience humaine, c'est-à-dire de télécharger la conscience humaine dans le cloud. C'est ça en réalité. Donc ils promettent l'éternité, mais c'est pas l'éternité forcément avec un corps physique. Ça serait plutôt dans le cloud. Voilà. Donc c'est ça en réalité. Et c'est pour ça qu'ils développent Neuralink. C'est avec cet objectif.
C'est quoi Neuralink?
Neuralink, c'est d'avoir des puces dans le cerveau et d'être connecté directement à l'IA. Donc on aura notre cerveau connecté à l'IA parce que selon Musk, ça sera la seule façon pour l'humain d'être encore compétitif dans la société face aux intelligences artificielles. Donc là, on est dans le transhumanisme. Donc c'est-à-dire que l'homme doit s'augmenter pour rester dans la course. Et donc voilà, c'est ça le projet. Hein. Et Ray Kurzweil, qui est un futurologue, ingénieur, qui est très respecté dans la Silicon Valley, notamment parce qu'il a prédit pas mal de choses qui se sont réellement passées. Lui, il a écrit des livres là-dessus. Hein. Lui, il pense que la conscience humaine doit aller dans le cloud et grâce à ça, on pourra coloniser l'espace. C'est ça le but final. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est ça leur but final, c'est de coloniser l'espace grâce au cloud et l'intelligence humaine qui sera liée à l'intelligence artificielle parce qu'évidemment, avec nos corps physiques, ça limite énormément cette conquête spatiale.
Marc Aubrion.
Oui, dans votre livre, vous évoquez aussi la façon dont l'industrie hollywoodienne serre les fesses face à au raz-de-marée de l'IA. Pourtant, on sait que l'industrie hollywoodienne a toujours été une industrie de crise, finalement. À chaque fois, elle s'est réinventée à l'époque du parlant, puis à l'époque de la télévision. Elle a toujours su, finalement, absorber les crises et en faire même un moteur de changement et de productivité, en fait. Est-ce que là, pour vous, l'IA, c'est peut-être sa dernière crise? Ou est-ce qu'elle va réussir, peut-être, à une fois de plus, à l'ingérer et en faire une force?
Bah effectivement, hein, on a prédit souvent la fin du cinéma, et puis finalement, le cinéma est encore là. C'est difficile de prévoir. Moi, j'ai travaillé sur un autre livre où j'ai discuté avec énormément de gens à Hollywood, et notamment beaucoup de cascadeurs, donc de coordinateurs de cascade d'Hollywood. Et eux, ils en sont convaincus. Hein, y a pas de doute, c'est que les studios vont utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. Pour des raisons déjà de sécurité des cascadeurs et puis ensuite de coûts. Donc tout simplement. Donc pour eux, il n'y a même pas d'hésitation. Donc peut-être pas que le cinéma va mourir, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup de secteurs dans le cinéma qui vont changer. Et l'IA sera omniprésente. Alors selon les cascadeurs, c'est une très mauvaise chose parce qu'il y a le rapport aussi charnel à la cascade, hein, le spectateur le voit quand c'est vraiment un cascadeur qui fait quelque chose. Donc pour eux, ils sont assez, assez pessimistes. Ils pensent que la qualité des films sera médiocre. Mmh. Mais ils sont convaincus qu'effectivement, le cinéma va se transformer. Et c'est ce que je dis dans le livre. Hein, il y a aussi des aspects qui peuvent être assez positifs parce qu'il y aura une démocratisation aussi du cinéma. C'est-à-dire que peut-être que dans le futur, n'importe qui pourra faire un film qui aujourd'hui coûterait 100 millions de dollars et il pourra le faire sur son ordinateur grâce à l'IA. Donc c'est peut-être aussi, on va dire, un aspect positif, c'est la démocratisation de la création filmique à gros budget, enfin, en tout cas qui paraîtra être à gros budget.
Alors on va rentrer un peu plus dans le détail sur la partie cinéma, mais on a quelques questions d'auditeurs pour vous. Je pense que l'intelligence artificielle n'a pas d'avenir car elle dépend d'une énergie abondante pour la faire fonctionner, des terres rares qui ne sont pas inépuisables. En effet, est-ce que l'énergie ne sera peut-être la limite de l'IA et de la robotique ?
Bah après, oui, tout ça, effectivement, hein, ça c'est des questions qui sont légitimes. Alors après, si on va du côté de Musk, par exemple, bon bah lui, il prévoit d'envoyer des satellites pour capter l'énergie solaire. Donc pour lui, il n'y aura pas de problème parce que grâce à l'énergie solaire captée directement depuis l'espace, bah ça sera une énergie très abondante. Voilà, par exemple. Il y en a d'autres qui pensent que on pourra aller vers la fusion nucléaire, non plus la fission nucléaire, mais la fusion nucléaire, ce qui permettra d'avoir une énergie abondante, très très abondante, et qui sera écologiquement aussi très bénéfique pour la planète. Donc voilà, ils ont des réponses à toutes ces questions-là. Alors, quand on leur pose ces questions, ils ont des réponses en disant il y aura pas de problème, on va trouver des solutions.
D'autres messages. Avez-vous vu le film Idiocratie ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Et un autre message. Quel film de science-fiction, selon vous, sera le plus proche de notre avenir ?
Alors, Idiocratie, oui, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Voilà, bah, effectivement, hein, c'est un risque. Alors, je crois que dans Wall-E aussi, hein, ils mettaient en avant ça aussi, une humanité qui se laissait totalement aller. Et puis qui était dominé par les machines. Moi, je pense que le film de science-fiction qui est vraiment visionnaire et qui est, je l'ai revu et je me suis dit, mais quel génie, c'est 2001 de Kubrick, parce que j'ai l'impression qu'il avait compris dès 1968 énormément de choses. Et c'est le film, à mon avis, qu'il faut revoir pour prendre conscience à quel point c'était un film visionnaire et qu'il annonçait tout ce qu'on vivait aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qu'il a annoncé ? Racontez-nous pour ceux qui ont encore quelques souvenirs de 2001 ou qui ont réussi à aller jusqu'au bout ou qui ont réussi à le revoir.
Après, faut voir le film hein, parce que voilà, je pense qu'il faut lire peut-être mon livre, en tout cas la partie sur 2001 et après revoir 2001 parce que il y a plusieurs interprétations de 2001. Moi, je prétends pas que la mienne, c'est l'analyse définitive de 2001. Hein. C'est ma version de 2001 avec ce que je constate de l'évolution de l'intelligence artificielle de nos sociétés. Mais en tout cas, Kubrick, il raconte l'histoire de l'évolution, l'apparition de la vie, comment la conscience apparaît chez l'Homo sapiens, l'évolution jusqu'à l'intelligence artificielle. Et ensuite, le film se termine par une nouvelle naissance dans l'espace. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, Kubrick avait compris toutes les étapes qu'on vit actuellement et le post-humanisme qui est au centre. Bah, on parlait tout à l'heure des lumières sombres. Bah, Nick Land, c'est ça qui prophétise, hein, c'est ça qui veut, c'est le post-humanisme, c'est qu'on aille au-delà de l'humain, c'est-à-dire que l'humain sera totalement dépassé et on va aller vers autre chose. Et Kubrick termine son film là-dessus. Et c'est, pour quelqu'un qui avait 40 ans en 1968, je veux dire, c'est une œuvre incroyablement visionnaire. Et puis aussi, je dirais qu'il faut lire les livres de Philip K. Dick, parce que lui aussi, c'était quelqu'un qui était un grand, grand visionnaire. Et je conseille notamment son roman Valis, qui est très peu connu. Et qui est,
il s'appelle Siva en français.
Comment ?
Qui s'appelle Siva en français.
Oui, Siva, ouais. Exactement. Siva en français, tout à fait.
Alors comment expliquer, justement, ça qui est intéressant, c'est la littérature et ensuite le cinéma. Marc a parlé de Terminator, on peut parler de K. Dick, on peut parler de Kubrick, même de Spielberg, parce que vous consacrez de longues pages aussi à son film ça y est, j'ai un trou de mémoire sur l'IA, qu'en tout cas ce gamin qui est une intelligence artificielle, qui ont tout annoncé, et c'est rarement positif. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a lu, et pourtant on fonce quand même. C'est quoi? C'est espèce de dépression humaine, une volonté de suicide collectif. Comment expliquer cette marche en avant alors qu'on sait ce qui se passe? En tout cas, on l'a lu. Et ce qu'on a lu, ça se termine mal.
Oui, bah c'est vrai que c'est assez angoissant parce que il y a toujours des futurs qui sont annoncés avec justement l'IA, les dangers de l'IA. Bah, on parlait de Terminator tout à l'heure. Mmh. Terminator, voilà, c'est au centre de cette saga. Ouais, bah c'est moi j'ai pas trop de réponses. Hein. J'ai lu un petit peu.
C'est la fascination pour le progrès, c'est la fascination, c'est l'invention, l'aventure. C'est vrai que depuis que le progrès existe, l'homme court, mais.
Bah, vous savez comment Philippe K. Dick expliquait d'où venaient ses idées pour ses romans?
Allez-y, on vous écoute.
Non?
Non, non.
Eh ben, il avait sa théorie. Il avait la théorie. Alors, je crois que ça s'appelle les tachyons. Donc, ce sont des particules. Alors, c'est pas une science prouvée, mais c'est une théorie. Et lui, il croyait fortement à ça. Donc, il appelait ça les tachyons. Et en fait, c'est des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière et qui donc peuvent voyager dans le temps. Et lui, il était convaincu en fait, c'était un récepteur des tachyons, c'est-à-dire des particules qui venaient du futur et qui venaient dans son inconscient pour lui dicter tous ses romans. Voilà, il explique ça dans l'exégèse. Voilà, et lui, c'était son explication pourquoi tous ses romans sont prophétiques. Parce que lui, il n'expliquait pas, il ne savait pas d'où venaient toutes ses idées. Voilà, il n'arrivait pas à l'expliquer. Et il disait, en fait, c'est pas les idées ne viennent pas de moi vers l'extérieur. C'est de l'extérieur que les idées viennent et moi, je suis juste un récepteur pour les diffuser dans le public. Voilà. Donc ça, c'est... Moi, quand j'ai lu ça dans l'exégèse, j'ai trouvé ça très poétique, très beau. Voilà.
D'ailleurs, il a subi à la fin de sa vie une révélation mystique qui lui a... Un rayon de lumière rose, dit-il, qui lui a appris la maladie de son fils et qui s'est révélé vrai deux jours après, en fait.
Ouais.
Qui était une maladie indétectable.
Voilà, alors... exactement, tout à fait. Il explique tout ça dans l'exégèse, qu'il faut lire aussi, hein, parce que c'est pas très connu sur Philippe K. Dick, et c'est passionnant.
Alors, vous avez expliqué que demain, grâce à l'IA, tout le monde pourrait être cinéaste, en tout cas qu'il y a une démocratisation du geste créatif, si on voit le côté positif, mais est-ce que c'est pas non plus une illusion qui masque, en fait, encore une fois, la concentration du pouvoir qui va être chez quelques plateformes, et qu'au final, cette démocratisation n'aura jamais lieu?
Bah c'est possible, hein. On voit déjà les studios américains qui commencent à être rachetés un petit peu par les mêmes personnes. Donc on a l'impression qu'il y a une volonté de monopole. Et c'est ça qui fait assez peur aux États-Unis. Effectivement, il y aura peut-être voilà, un monopole du cinéma pendant un certain temps. Alors après, j'ai lu que Sam Altman pense que le cinéma, ça va être l'équivalent de l'opéra aujourd'hui. Dans le futur, hein, il pense dans peut-être 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire que ça sera réservé à une petite élite intellectuelle qui ira au cinéma voir certains films, mais que la globalité de la population va se désintéresser du cinéma et fera autre chose. Peut-être ça sera les jeux vidéo qui seront voilà omniprésents et le cinéma, ça sera juste un petit une sortie culturelle pour une toute petite élite.
Pour une niche, quoi. Parce qu'en effet, on parle beaucoup en tout cas, les studios, les syndicats, que ce soit aux États-Unis mais aussi en France, alertent, gênent sur le danger de l'IA qui va remplacer les métiers. Alors, on a vu les doubleurs, évidemment, notamment au festival de... Non, au César, je crois. On a vu à Cannes aussi des alertes dessus. Donc, ça peut être remplacement de scénariste, remplacement de musique, remplacement de doubleur. Remplacement, pourquoi pas, d'acteur. Mais est-ce que le vrai danger du cinéma, c'est pas la disparition lui-même du cinéma, comme Marc l'évoquait, c'est-à-dire que on a eu la Netflixisation des esprits, c'est-à-dire que l'algorithme choisissait le film pour vous, et donc en fait choisissait pas, c'est-à-dire vous aimiez ça, et vous refilez à becter jusqu'à plus soif de ce que vous aimiez déjà. Et que l'étape d'après, c'est pas la... où cette étape-là va être ringardisée très vite, c'est-à-dire du remplacement des humains par l'IA, par directement la conception en temps réel du film que vous voulez voir ou que vous croyez voulez voir. C'est-à-dire que chacun va avoir sa propre, son propre film, selon ce qu'il a défini, selon un algorithme ou selon je ne sais pas quoi qui va exister. Et donc, c'est-à-dire, en effet, la disparition de tout commun. Alors déjà, avec la disparition de la salle, le commun n'existait plus vraiment. Mais là, une disparition totale. C'est-à-dire qu'on va être dans la, dans le divertissement pur, mais sans aucun lien humain.
Oui, 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 effectivement, bah, j'en parle dans le livre. Effectivement, le cinéma, c'est aussi quelque chose qui rassemble à la fois dans la salle, quand on va voir un film, mais aussi après. C'est-à-dire que ça crée du lien social. C'est-à-dire que quand il y a un film événement, après, les gens en parlent entre eux, etc. Donc, là, on a vu récemment avec l'Odyssée. Voilà, ça crée du lien quand même. Un grand film crée du lien. Et c'est effectivement une théorie, peut-être que chacun aura un casque après, avec une IA qui connaîtra parfaitement les goûts du spectateur, et il va adapter à chaque fois un film, il va inventer un film qui va correspondre aux attentes précises du spectateur, où le spectateur fera un prompt, voilà, en quelques phrases, ce qu'il veut voir, et puis l'IA connaîtra l'ensemble des goûts du spectateur et il va adapter le film au spectateur. Donc ça va effectivement nuire à une des grandes qualités du cinéma, c'est de rassembler dans la salle, mais aussi après le film, par les dialogues, les conversations.
Et qui va aussi nuire à une autre qualité que la salle permettait, surtout à l'époque où on pouvait se gourer d'horaires de séance, se retrouver avec un film qu'on n'avait pas prévu de voir, c'est-à-dire la curiosité, parce que si on regarde les plateformes aujourd'hui, qui sont donc l'algorithme, donc le pré-IA, l'IA préhistorique, il n'y a plus de curiosité. On revoit éternellement le même film. Il n'y a plus de volonté de découverte, il n'y a plus de volonté de surprise, il n'y a plus de volonté de s'échapper. On veut quelque chose pour passer le temps, si on pour repasser, pour texter, pour faire ce que vous voulez.
On veut se rassurer même, à la limite.
On veut se rassurer, évidemment. Donc moi, en effet, je crois plutôt à ce futur assez effrayant que l'IA sera directement connectée à notre cerveau et qu'en fonction du moment, on nous projettera déjà un truc qu'on souhaite faire, ou souhaite voir plutôt, et en effet, il n'y aura plus de contrées inconnues à découvrir, ce que permettait également le cinéma. Il nous reste, malheureusement, il nous reste une minute. En une minute, si vous pouvez, c'était une dernière question pour vous, où vous opposez des films trumpiens à des films anti-trumpiens, qu'est-ce qui distingue un film trumpien d'un film anti-trumpien en une minute ?
Bah, je dirais que ce qui les rassemble déjà, c'est que ça divise. À chaque fois, c'est des films qui divisent. Donc les films anti-Trump, c'est des films qui mettent en avant les minorités contre une Amérique qui serait raciste. En général, c'est ça. Et les films trumpiens, c'est mettre en avant la qualité du WASP. Et en général, on met de côté les minorités. Voilà. Mais à chaque fois, c'est des films qui divisent.
Merci beaucoup, David Da Silva. Je rappelle donc votre nouveau livre, L'âge des inutiles, Trump, l'intelligence artificielle, le capitalisme post-humain et l'avenir du cinéma, aux éditions Leitmotiv. Bon, pour le procurer, bah, vous allez sur les éditions Leitmotiv et vous pourrez le commander. Merci beaucoup, David Da Silva, chers auditeurs. Je vous remercie, j'espère que l'émission vous a plu et on se retrouve mercredi prochain.
Ça suffit maintenant !